Merci Olivier. Et voilà, après un petit moment d'absence, je suis venu retrouver le ciel gris et la pluie de Belgique en quittant l'Espagne. Voilà, quoique pour le moment il pleut beaucoup là-bas aussi, donc ça ne me change pas tellement. Mais voilà, je suis content d'être là au milieu de vous. Mon épouse vous salue aussi. Elle n'est pas parmi nous parce que, comme on n'a pas le don d'ubiquité, on doit se partager un petit peu entre les églises tous les deux pour aller saluer nos frères et nos sœurs là où ils sont. Alors, aujourd'hui, un petit peu dans la continuité de ce qu'on avait déjà un petit peu développé dernièrement, donc cette identité d'enfant de Dieu, comment nourrit-on notre identité ? Je voudrais aujourd'hui aller dans le sens de comment est-ce que nous nous construisons ? Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons nous construire ? Alors, c'est étonnant parce que on entend bien souvent dans mon milieu des phrases comme ça qu'on dit, mais je me demande est-ce qu'on pense vraiment à ce qu'on dit. Dieu a un plan pour toi. Oui, Dieu a un plan pour toi, j'en suis sûr. Et puis, quand une église ne va pas très bien et qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour moi aussi. Et là, je pense que c'est ça que je voudrais un peu abordé. Ce sont des affirmations qui nous rassurent. Quand ça ne va pas bien, savoir que quelqu'un a un plan pour nous et qui va nous tirer de là, c'est formidable quand même, on est bien d'accord là-dessus. Mais je pense que si je réfléchis bien, la compréhension des événements, je crois que c'est pas à ça que ça sert un plan. Un plan ne sert pas à comprendre des événements ? Non, je ne crois pas. Moi, je suis technicien et quand je lis un plan, il me donne des indications, il me dit ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, mais j'espère quand même que je le comprends quand je le lis. Parce que si je ne le comprends pas, je peux le relire 100 fois, j'en ferai rien du tout de ce plan. Donc, le plan, ce n'est quelque chose qui va me dire et me donner la vision de comment les choses doivent se passer, ou plutôt devraient se passer. Mais il y a une chose qui est bien évidente, c'est que Dieu, lui, a toujours eu, dès le début, un plan pour l'humanité. Et pour vous le rappeler, on ne va pas aller loin dans la Bible, on va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 4, ce que nous dit ce texte par rapport au plan que Dieu avait. Genèse 2, à partir de 4, et voici ce que je lis. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Ce texte nous indique bien que dès le départ, lorsque Dieu crée le jardin d'Éden, il a un plan. Il a quelque chose à faire. D'abord, la première chose qu'on voit, c'est que pour moi, je ferme les yeux quand je lis ce texte et j'imagine ça. Je dis, waouh, moi je veux un architecte paysagiste comme ça pour s'occuper de mon jardin. Waouh, c'est magnifique ce qu'il a fait là. Mais il savait pourquoi il faisait quelque chose de magnifique. Il avait le but de mettre au milieu de ce jardin sa créature préférée. Vous voyez qui ? Il prend l'homme et il le met au milieu du jardin. Tout est prévu. Tout est là. Les arbres, on peut cultiver, la terre va produire, il y a de l'eau partout, il n'y a pas de problème. Tout est prévu. Donc on peut dire que dès le départ, Dieu pose un plan pour l'humanité. Alors moi je me pose la question, qu'est-ce que moi j'ai à voir personnellement là-dedans ? Qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans ? Oui, je fais partie de l'humanité, d'accord. Mais lorsque on affirme que Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi, alors nous voyons qu'il y a quand même une dimension personnelle dans les plans de Dieu, dans l'action que Dieu mène pour notre vie. Alors, vous savez bien que j'aime bien nous ramener toujours un petit peu terre à terre, là où on est, pour bien comprendre avec des images de nous. Alors, on va sortir de ces considérations très philosophiques et je vais commencer à expliquer. Je veux bâtir une maison. Je veux construire une maison. J'ai des sous, j'ai tout ce qu'il faut, je vais construire une maison. Le terrain, je l'ai déjà. Hein, le terrain, c'est mon patrimoine. Il m'a été donné par mon père, par ma mère. Donc, j'ai déjà ça. Ça, c'est bien quand même. C'est pas mal pour commencer. Mais si je veux construire une maison, qui est-ce que je vais d'abord voir ? Un architecte ? Qui va dessiner ma maison ? Un architecte, c'est lui qui va dessiner ma maison. Alors celui-ci, sa mission, ça va être de dresser des plans pour ce qui sera ma maison, l'endroit où je vais passer ma vie. Et si c'est un très bon architecte, il va tout mettre en œuvre pour que celle-ci corresponde le mieux à mes besoins, ce qui va me permettre de m'épanouir, de vivre heureux. Pour autant que je respecte les plans qu'il va établir. Enfin, là, on est bien d'accord. Et là, nous y sommes. Lorsque nous déclarons que Dieu a un plan pour nous, est-ce que nous sommes réellement conscients qu'il veut faire tout pour notre bonheur et pour que tout se passe bien pour nous ? Que c'est sa volonté ? Revenons à notre architecte. Un plan d'architecte, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà vu ça, ou peut-être qu'il y a des architectes parmi nous, ça je ne sais pas. Un plan d'architecte va représenter tout ce qui doit être fait. Il ne manque rien. Moi, j'ai les plans d'architecte de la maison qu'on a en Espagne. Ben, il y avait les murs, il y avait la fondation, il y avait tout, il y avait même l'électricité. Tout était dedans. Tout ce qui doit aller dans cette maison est sur le plan. Donc, tout est prévu dès le départ. Il faut que cette maison soit solide. Donc, ça, c'est aussi important. Tant sur ses fondations que les matériaux qu'on va utiliser, les normes de sécurité qui vont garantir notre protection aussi. Tout ça est là. Si on respecte le plan, on ne le respecte pas, non, on va au-devant des problèmes. Il y a quelque chose un jour qui va se passer. Ça ne marchera pas. Car vous savez, l'entrepreneur qui va construire cette maison, c'est nous, hein ? C'est moi qui vais construire ma maison. Vous voyez de quelle maison je parle maintenant ? Sortons un peu des briques et des murs. Ma maison. Qui va construire ça ? Moi. Moi ? C'est la mission que j'ai. Je dois me construire. Je Je suis un peu comme un super bricoleur qui est capable de construire sa maison seul. Est-ce que je peux faire ça vraiment seul? Hein, on va en reparler. On va revenir dans la Bible, comme on dit dans la Genèse, tout est prévu. Il avait tout prévu pour que l'homme soit comblé, pour qu'il ne manque de rien. Il y avait juste une seule norme de sécurité, une chose à ne pas faire, sauf faute de quoi on a des problèmes et le plan ne peut pas se réaliser convenablement. Il est perturbé. Vous voyez laquelle? On va relire. Verset 17, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, norme de sécurité, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est une norme de sécurité. Ne fais pas ça, parce que sinon, là, il y a quelque chose qui va se passer. Si on ne suit pas ça, et ça a été le cas, on connaît la suite. Est-ce que nous sommes conscients aussi que d'une manière personnelle, pour toi, pour moi, pour nous tous, Dieu a établi des normes de sécurité que l'on retrouve, on va dire, dans le livre qui accompagne le plan? On en a parlé de ça déjà. Là, on va retrouver les normes de sécurité, elles sont ici. Tout est là. Tout ce que Dieu nous dit qu'on doit faire, et surtout ce qu'on ne pas faire, ne pas tenter de le faire, on le retrouve ici. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, dans lequel Jésus et les disciples après, les apôtres, nous ont rappelé cela. Tout est là. Parce que la Bible va nous enseigner une chose fondamentale. C'est que le non-respect de la norme de sécurité qu'Adam a fait va introduire quelqu'un d'autre dans ce monde que Dieu n'avait certainement pas envie de voir là. Vous voyez aussi de qui je veux parler. C'est ce bon copain. Vous savez, ceux qui construisent une maison, qui font des réparations, chez eux, ont toujours un bon copain. Il sait mieux que tout le monde. Il sait même mieux que l'architecte. Hein. Parfois, vous regardez le plan avec lui, il dit, allez, non, si tu ne crois pas qu'il exagère un petit peu, là, non, faut pas faire ça, faut pas mettre ça. Ça, non, tu verras, on va se passer de ça, ça va marcher. C'est une catégorie de ciment, non, on va prendre d'autres choses, c'est moins cher. Tu vas voir, ça va aller plus vite, tu vas plus vite profiter de ta maison, tu vas plus vite être dans le bonheur. Il va vous expliquer ça comme ça, lui. Les normes de sécurité sont perturbées. Les hommes de sécurité sont perturbés à un tel point qu'il est là, mais heureusement, il y a quelqu'un qui va venir pour nous les rappeler. Là aussi, vous voyez de qui je parle, on en a parlé ce matin. Juste avant la Sainte-Seine, on nous a rappelé qui était cette personne. Et je vais la ramener vraiment dans notre construction. Comment Jésus peut-il participer à cette personne? Mais je voudrais d'abord développer quelque chose. Parce que le pas à franchir peut être très court. Lorsque l'on dit « Dieu a un plan pour moi, donc tout est prévu. Est-ce que je suis prédestiné ?» C'est une bonne question. Si je suis prédestiné, puisque Dieu a tout prévu, qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? C'est compliqué. Est-ce qu'on est prédestiné? Et moi, je vais dire oui. On est prédestiné, tout à fait. Épître aux Romains, on en a parlé ce matin, chapitre 8, on y va. Romains 8, et on va voir là, qu'est-ce que l'Épître aux Romains 8 me dit. Romains 8, et là on va lire à partir du verset 28. C'est une phrase que tout le monde connaît bien en 6. Hein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, alors on y est, à être semblables à l'image de son Fils. Ah! Enfin, que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors oui, on est prédestiné. À quoi ? À être appelé ? À être justifié ? À être glorifié ? Et à être semblable à l'image de Jésus aux yeux de Dieu. En résumé, à être aimé par Dieu, tout simplement. Il nous aime. C'est ça, ressembler à l'image du Christ. Si on est prédestiné à ça, c'est parce que Dieu nous regarde avec un regard d'amour. On dit que Dieu a fait l'homme à son image. Ben, l'image de Dieu, ce n'est pas les tableaux qu'on voit partout avec les cheveux blancs et la barbe blanche. Sinon, moi, j'ai déjà gagné des points. Non, je ne pense pas que c'est ça. Tout le monde rit, mais bon, ce n'est pas ça. C'est un petit peu ça qu'on a fait l'image de Dieu. Non, l'image de Dieu, c'est qu'il nous a fait comme lui, libres et responsables. Parce que Dieu est libre de ses actes et il en est responsable aussi. Et il en donne sa responsabilité. Et là, il y a des textes dans la Bible qui nous parlent de ça, de la responsabilité que Dieu prend face à ses actes. Ne parlons que du déluge, par exemple. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Parce que cette liberté nous autorise à sortir du plan. Je ne connais aucun architecte qui vient voir votre maison avec une carabine en vous disant « t'es sorti du plan ». Non. Non. Mais si vous ne suivez pas le plan, il va vous expliquer que là, ça va mal finir. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est intéressant aussi. D'abord, la première chose qu'on sera de se dire, est-ce que nous pouvons bien comprendre le plan que Dieu fait pour nous? Parce que ce n'est pas toujours simple. Moi, je reçois un plan d'architecte entre les mains. Pourtant, j'étais à l'école, j'ai fait des études, tout ce qu'on veut. Mais il faut quand même parfois comprendre ce qu'il écrit là-dessus et ce qu'il dessine là-dessus. Parce qu'ils ont leurs normes, ils ont leur façon de faire les choses. Donc, ce n'est pas toujours simple. Je crois que pour comprendre et posséder dans notre esprit le plan que Dieu conçoit pour nous, d'abord, il faut connaître les instructions qui vont avec le plan. Sont là. Ça, c'est la première chose. On en a parlé dernièrement, de nous nourrir de cette parole parce qu'elle va nous permettre de comprendre des choses. Et puis, nous devons le rencontrer. Bien aimé, si un jour vous bâtissez une maison, si quelque chose vous n'avez pas compris dans le plan, allez voir votre architecte, restez pas comme ça. Allez le voir. Posez-lui des questions. Dialoguez avec lui. J'ai bien dit dialoguer avec lui, hein. Parce que parfois, quand on dialogue avec Dieu, c'est un dialogue comme ça. Vous savez, toujours, hop, 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 faites ça avec un architecte, à un moment donné, il va dire, est-ce que je peux en placer une, s'il vous plaît? Il faut savoir aussi écouter ce que Dieu a à nous dire. Et dans ma vie, j'ai appris que Dieu nous répond. Si on veut bien l'écouter. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de prier par des choses que je ne comprenais pas et qu'à la fin de ma prière était beaucoup plus claire. Qui m'a répondu? Pas moi, puisque je ne comprenais pas. Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est important. Bien souvent, quand on prie, bien aimé, on prie à sens unique. On prie vers Dieu et on se dépêche de dire Amen. Parce que ça, c'est fini, ça clôture, ça. J'ai fini de prier, Amen. Alors Dieu, il dit, bon, ben, Amen. Je pense, moi, je serai à sa place, c'est ce que je ferai. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un moment de silence. Rentrer dans notre cœur et attendre la réponse. Elle viendra. Je n'ai pas dit, elle vient, j'ai dit, elle viendra. Elle viendra de toute façon. Et ça, c'est notre espérance et c'est notre relation avec Dieu. Et c'est important. Parce que chaque jour de notre vie, c'est une brique en plus que l'on met dans notre maison. C'est un élément en plus que je mets. Et je dis bien chaque jour de notre vie, face à ce qu'on est confronté, ça nous a été rappelé tout à l'heure. On est confronté à des choses dans notre vie. Eh bien là, il faut que ces choses, si on a des réponses, soit une brique qui nous fasse grandir, qui nous fasse élever notre maison. Alors, on a un choix, je l'ai dit. La liberté nous permet de faire deux choses. Ou bien je construis dans le plan de Dieu, ou je construis sans l'aide de Dieu. Mais je voudrais peut-être très vite vous ramener dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Jean, chapitre 6, on va lire que ce verset-là. Je n'aurai peut-être même pas le temps d'aller dedans, mais ce n'est pas grave. Jean, chapitre 6, qu'est-ce qu'il va me dire au verset 40 ? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà le plan que Dieu a pour nous. Que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons en vie avec lui. Ça, c'est l'aboutissement du plan. C'est la fin de la construction. C'est ça, la volonté de Dieu. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on ne doit pas l'oublier. Et c'est là qu'on arrive à cette question que j'ai posée tout à l'heure. Sommes-nous seuls dans cette construction ? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire non. Non, et heureusement. Parce que moi, je frémis de savoir que je pourrais être tout seul pour un travail pareil. C'est énorme comme travail. On est humain, on a nos faiblesses, il y a des choses, on dérape, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On a besoin de quelqu'un qui soit avec nous. C'est ce qu'on appelle communément en français le conducteur des travaux. Sur tout chantier, il y a ce qu'on appelle un conducteur des travaux ou un responsable des travaux. C'est comme ça maintenant. Même pour des grosses modifications dans votre maison, vous êtes obligé, quand vous rentrez votre demande à la commune pour faire vos travaux, d'avoir un responsable des travaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des hispaniques ici. En espagnol, on l'appelle ce monsieur l'aparejador. Aparejador, c'est la racine des paredes. Les paredes, c'est, je viens d'Espagne, nous, voilà, c'est les murs. C'est celui qui va voir si les murs sont solides assez, si tout ça va tenir. Et c'est lui qui va signer à la fin pour dire c'est OK, on peut venir habiter dans cette maison, avant d'avoir le cachet de la commune qui dit vous pouvez vivre dans votre maison. Eh bien, moi, je me dis que ce conducteur des travaux, c'est quelqu'un de formidable. D'abord, lui, il vient voir le chantier régulièrement, il est présent. Il vient, il est là. En plus, il connaît bien l'architecte, il le connaît intimement. Donc, il sait ce que l'architecte attend. Il connaît bien les plans, il sait les lire. Il comprend les plans, il sait voir tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas ou si on n'a pas fait quelque chose comme le plan était là. Il a compris tout de suite. Il est même capable de rattraper nos erreurs, de nous expliquer, attention, tu continues par là, ça va mal finir. Hein? Viens plutôt par là, viens, suis-moi, viens avec moi, je vais te montrer par où il faut aller. Ça, c'est ce conducteur des travaux là aussi. C'est même plus loin. Parfois, il va en réunion, il n'est pas là, on ne sait pas. Hein, il est parti, il laisse quelqu'un quand même, il laisse quelqu'un près de nous, à qui on peut se confier, à qui on peut parler. Moi j'appelle cette personne-là l'esprit de la parejador, l'esprit du conducteur des travaux. Il est là lui, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et enfin, et ça c'est important, il est capable d'aller vers l'architecte, de nous excuser et de dire « Allez, c'est pas trop grave, on va rattraper ça, je vais les guider, c'est pas grave. » Afin que l'architecte ne retire pas sa confiance. Je pense que vous avez tous bien compris de qui je parle pour nous. De Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a ramenés vers son Père. C'est Jésus qui est là près de nous tout le temps. C'est lui qui est là tout le temps près de nous, prêt à nous aider, à nous épauler. Et l'Esprit Saint est là aussi. Ils sont là. Lui est là, l'Esprit Saint est là. Somme toute, si on réfléchit bien, c'est bien lui qui va nous amener à la fin du chemin de notre vie, de notre construction, pour accomplir ce que Jésus-Christ a dit lui-même, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons là-bas. Et pour ça, il faut vraiment travailler ensemble. Il faut vraiment être tout le temps là. Il ne faut pas être croire qu'on est fort, qu'on est tout puissant. Je connais bien ma Bible, je connais les textes par cœur. Non. Je pense qu'il est important, avec beaucoup d'humilité, de savoir qu'on peut faillir tout le temps. Et qu'on doit savoir aussi que tout le temps, Jésus est là. Le conducteur des travaux est là, à côté de nous, pendant qu'on construit notre édifice, pendant que nous nous construisons. Quand on a des difficultés, on prie. Je l'ai dit tout à l'heure, on prie, on peut prier. On peut prier après notre Seigneur, on peut prier après l'Esprit Saint. Vous savez, on peut utiliser des mots simples non plus aussi. Hein. Il ne faut pas rentrer dans des grandes envolées liturgiques, j'ai presque envie de dire, avec des mots bien consacrés. Non, il comprend. Il nous comprend, il sait ce qu'on dit. Il comprend notre désarroi, il comprend quand on ne va pas bien, il comprend quand on se dit « Ah là, j'ai fait une gaffe, comment est-ce que je vais me sortir de ça ?» Il comprend ça. Il a besoin de mots simples pour avancer avec nous. Un peu comme si vous preniez votre téléphone là, et disant, moi j'avais j'ai toujours cette image, ce jeune adolescent, je ne l'oublierai jamais. Maintenant, il doit être âgé parce qu'il a grandi comme moi. Mais dans une réunion avec des adolescents, je vous ai déjà peut-être raconté ça, hein, je leur demandais, c'est quoi pour vous la prière? C'est bien de demander à des ados, c'est quoi la prière? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, la prière, c'est je m'adresse à Dieu, la prière, c'est je demande des choses, la prière, c'est j'espère qu'il va m'exaucer, enfin toujours une réponse. Et puis il y en a un qui dit, moi la prière, c'est je prends mon téléphone, à l'époque c'était encore des téléphones à Cornell, vous voyez, je prends mon téléphone, je fais allô Dieu, j'ai quelque chose à te dire. C'est ça la prière. C'est tout simplement ça la prière. Seulement, vous voyez, quand on prend le téléphone, qu'on dit à quelqu'un, j'ai quelque chose à te dire, on attend sa réponse. Parce qu'il y a deux cornets au téléphone, et il y en a un pour parler, il y en a un pour écouter. Vous voyez? Ça, c'est important de le retenir. Et lui, quand il m'a donné cette image-là, je me suis dit, ça, c'est un gamin qui a tout compris. Ça, c'est formidable. C'est le seul moyen qu'on a à notre disposition pour pouvoir continuer à nous construire, à construire notre édifice, nous, notre corps, ce temple. Vous connaissez cette image? Vous êtes le temple de Dieu. Ce temple dans lequel Dieu va pouvoir venir habiter. Ce temple, nous le construisons tous les jours. Nous le nettoyons, nous l'épurons tous les jours. Et ça, c'est la construction importante de notre vie. Parce que comme le Christ dit, s'il est en nous et nous sommes en lui, alors tout va très bien se passer pour nous. Et ça, je crois que c'est important de le retenir. Et je voudrais terminer maintenant par une simple exhortation que Paul a faite aux Éphésiens, parce que l'Église d'Éphèse se posait à un certain moment beaucoup de questions par rapport à son devenir et comment ils allaient pouvoir subsister. Ils avaient des gros problèmes. Et qu'est-ce qu'il va dire, Paul ? Priez. Priez par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit. Et veillez à cela avec toute persévérance et en faisant des supplications pour les saints. Donc priez aussi pour ceux qui sont autour de vous. Ça vous aidera à grandir. Et je crois que ça, c'est important. Et je vous invite maintenant à un moment de prière. Seigneur Dieu, nous savons que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Nous savons aussi que l'aboutissement de ce plan sera bon pour nous. L'aboutissement de ce plan, c'est pouvoir vivre avec toi dans un monde totalement restauré, dans le monde comme tel que tu l'as voulu, pour l'éternité. Nous voulons te remercier aussi, toi notre Père Céleste, d'avoir envoyé ton Fils unique Jésus, afin par son sacrifice de nous enlever nos fautes, de nous remettre avec toi, nous qui nous étions éloignés. Il nous a remis dans les voies, il nous a remis dans ton plan. Merci Seigneur Jésus à toi d'être là chaque jour, à chaque instant de notre vie, par la présence de ton Esprit Saint. Et merci aussi parce que tu es tout le temps disponible, tu es toujours là, prêt à nous écouter, à nous entendre, à nous soutenir, à nous épauler, à nous montrer le chemin. Et gloire à toi, notre Père céleste, pour tout ce que tu as fait et tout se fera encore pour chacun d'entre nous. Et nous te bénissons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme je sais que vous êtes une église qui participait beaucoup à l'œuvre que nous avons principalement dans le Sahel, je voudrais vous montrer une toute petite vidéo de ce que vous avez permis de faire. Alors, je vais lui demander d'envoyer ce petit film, si tu veux bien, voilà.
Chantons et... Association chrétienne aide du Sahel, nous avons reçu votre aide, merci vraiment de vous donner.
Merci beaucoup, merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre aide, merci.
Pour l'aide, on a eu ça, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous aide.
Bonjour, Association chrétienne aide Sahel, merci beaucoup pour vos soutiens. Que le Seigneur vous bénisse.
Je suis pasteur.
Tu es normalement, tu as tout un film, c'est tout un film qui passe là. Ah, le film passe Mohamed là.
Pasteur Mohamed Agunfa de l'église évangélique baptiste de Tombouctou. En ce moment, je voudrais, au nom de toute l'église, au nom de son conseil, au nom de tous ses membres, exprimer notre profonde gratitude à l'association chrétienne d'aide pour le Sahel, qui a bien songé à aider nos veuves et nos orphelins en cette période de Noël. Les dons que nous avons reçus leur sera transmis pour bien sûr fêter, pour être en joie et en paix dans cette période de Noël. Encore, nous prions que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos ressources et que vous êtes toujours à le servir là où il voudra que vous le serviez. Que Dieu vous bénisse.
Association chrétienne d'aide au Sahel, merci pour les 55 radios reçues par Konobougou. Merci encore.
Je t'en précis d'avoir recevoir ces radios, ces proclameurs, la parole dans les familles, dans les groupements. Nous sommes dans la joie.
Mais ces radios vont permettre que les croyants, les pasteurs puissent bien communiquer le message de l'Évangile à la population. Et merci infiniment.
Donc ici, ça, c'est les dons qui sont venus d'une association dont d'être au Sahel. C'est eux qui ont fait ces dons. Donc c'est pour cela que nous leur disons un grand merci, parce qu'ils nous soutiennent au niveau national. Et merci beaucoup.
Voilà, donc tu peux passer peut-être la deuxième petite vidéo. Je pense que c'est vous que je dois applaudir, parce que sans vous, on ne peut pas faire des choses pareilles, ce n'est pas possible. Mais voilà, je voudrais faire deux, trois petits commentaires par rapport à ça, dont vous avez vu qu'on a aidé des veufs et orphelins, donc en général, c'est important. C'est important parce que le Mali est un pays essentiellement musulman. Voilà, vous êtes probablement au courant à plus de 95-96%. Donc, quand une femme est veuve, elle n'a souvent plus de ressources, surtout si elle a des petits-enfants. Les enfants sont plus grands, bon, ils peuvent prendre la maman en charge, etc. Mais quand ils sont plus petits, c'est une catastrophe. Et bien souvent, les musulmans, à ce moment-là, en profitent pour lui dire « Mais viens !» moi je te propose, je vais me marier avec toi. Donc, bien, généralement, il y a déjà deux ou trois femmes, mais ça ne fait rien, je te prends en plus. Mais voilà, et puis ne te tracasse pas, je te laisserai ta liberté et tout. Et alors là, voilà, hop, on récupère la personne. Parce que la liberté, elle ne va pas la garder plus de 6 mois, hein, ça c'est sûr. Donc il est important de les aider, ça c'est une chose. Vous avez vu une dame sur cette vidéo qui est voilée. Parce que nous estimons que nous devons aider notre prochain sans discrimination. Cette dame a demandé de l'aide à l'église et le pasteur lui a donné de l'aide, comme si elle faisait partie de son église. C'est un message. C'est un message pour dire que notre identité de chrétien fait de nous, on en a parlé, des êtres différents. On n'est pas comme les autres. Alors les petites radios que vous avez vues là, Ça, ce sont des c'est pas vraiment des radios, ils appellent ça des radios, mais c'est pas des radios. Ce sont des petits appareils. Malheureusement, j'aurais dû prendre le mien avec, mais ma femme, on n'en a qu'un pour nous deux. C'est elle qui l'a pris pour aller dans notre église. C'est un petit appareil dans lequel toute la Bible est enregistrée dans la langue du pays. Donc la personne, parce que bon, je vous ai déjà expliqué, souvent en Afrique, ils sont plus d'une culture de l'oralité que d'une culture de la lecture. Bien souvent, l'oralité est très présente, donc c'est important pour eux d'entendre. Et ces appareils leur permettent d'entendre. Ces appareils sont distribués dans les églises d'abord, mais aussi aux alentours. Donc on en distribue aux gens qui les demandent, et ils sont distribués en prison. Ça, c'est important. Parce que les prisonniers sont des gens qui sont bien souvent délaissés. On parle de nos prisons, mais je vous invite, si un jour vous avez 5 minutes, d'aller voir là-bas. Là, vous allez voir ce que c'est vraiment la prison, parce que là, c'est terrible. Ils ont besoin. Et souvent, ce qu'ils entendent dans cet appareil, ça les réconforte. Ça recoupe ce que le pasteur qui va leur rendre visite dit. Bien-aimés, on gagne des cœurs en prison. Au Mali, il y a des gens qui se convertissent en prison et qui sont baptisés en prison avec ces petits appareils. On m'a raconté une anecdote, c'est un pasteur de là-bas qui m'a raconté une anecdote. On avait distribué dans son église, un jeune est parti avec son petit appareil et il s'est fait racketter dans la rue. Parce qu'il y a tellement de pauvreté que là, tout ce qu'on peut prendre, ça se revend. Non, c'est une image, il faut être clair. Il s'est fait racketter, mais lui, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Il a dit, ouais, donne-moi ta radio. Il croyait que c'était une radio. Il est rentré chez lui, il a allumé la radio. Et là, oh, grosse surprise. Il a écouté jusqu'au bout. Il a écouté. Son cœur a été touché de ce qu'il a entendu. Ce petit gars-là qui avait volé le truc. Et il est revenu vers cette église, il est allé voir le pasteur. Il lui a demandé qu'est-ce que je dois faire. Et le pasteur lui a dit, ben, commence déjà par rentrer et écouter. Et puis on verra après. C'est un élément d'évangélisation. Tout ça, on ne peut le faire que grâce à vous. C'est comme je l'ai dit ce matin à mon frère Olivier, le chantier est énorme. Si un jour je peux venir chez vous, je distribuerai les dossiers. S'il y en a un qui veut le prendre en charge, il y a des dossiers qui commencent à 500 euros jusqu'à 10 000 euros. Hein, donc c'est souvent vos moyens, vous pouvez y aller. On est demandeurs. Non, franchement. Donc, et nous, on essaye de travailler le plus possible dans l'évangélisation, mais ça dépasse ça. On aide aussi les gens, on leur montre qui sont les chrétiens. Voilà. Je vous remercie tous de m'avoir écouté.
Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup, Michael, pour votre disponibilité pour nous partager la parole de Dieu. Et merci à chacun de vous pour vos dons. Ce sont effectivement vos dons qui servent à ceux qui en ont besoin. Que le Seigneur soit glorifié pour son œuvre parmi les démunis. Quelques annonces pour notre communauté. Après avoir rencontré les anciens, Esaïe et son épouse ont été admis comme membres de notre église. Je peux les demander de se lever. Peut-être que vous les connaissez, sans doute. Voilà, Esaïe et Léonie sont les nouveaux membres de notre communauté. Ça fait un temps qu'ils sont parmi nous. Je pense que vous les connaissez. Et aujourd'hui, ils ont été admis comme membres de notre communauté. Ce jeudi à 19h30, nous allons ici une étude biblique où tout le monde est convié. Nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous exhorte à nous construire et que cette construction passe par la parole de Dieu. Nous en avons tous besoin. Donc tout le monde est convié. 19h30, vous sonnez à la salle de réunion. Nous aurons la joie de partager la parole de Dieu. C'est la ligne droite pour les inscriptions à la convention Héron qui aura lieu ce samedi le 14 février. La semaine passée, notre chère Rani nous a présenté le projet. Voilà, si tu as quelque chose, merci de projeter. Donc, les jeunes de plus de 17 ans et à partir de 17 ans et plus J'ai vu aussi que les responsables et les jeunes sont aussi conviés, et les pasteurs et les anciens, donc tous ceux qui s'occupent des jeunes, à participer à cet événement, aller les soutenir. Donc pour les inscriptions, n'hésitez pas à consulter Rani qui est présente, et Michael, effectivement, et il y a Léon aussi. Ils peuvent vous aider pour plus d'informations concernant ces instructions de héros pour la convention 2026 organisée par les GBU. Nous tenons à vous remercier encore pour vos dons, pour que vous donnez soit vos dîmes et vos offrandes pour le bon fonctionnement de notre communauté. Il y a le numéro de compte, si Raphaël le trouve, il l'affiche, et il y a les troncs aussi au fond de la salle pour ceux qui souhaitent donner pour l'œuvre du Seigneur. Puis-je vous exhorter à vous lever, nous allons chanter « Il donne le repos », ce dernier chant qui nous rappelle encore que Christ, on l'a entendu, celui qui supervise nos travaux, du moins la reconstruction de notre vie tous les jours, il donne également le repos. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Que le Seigneur Jésus vous accorde une bonne semaine et vous accompagne en tout. Je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve au sous-sol pour notre communion fraternelle.